Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Enfin, je trouve que l'idée de vouloir qu'une seule et même personne soit le coparent idéal, l'amant ou la maîtresse idéale, le partenaire ou la partenaire idéale, et tout ça pour la vie et pour toujours, et 24 heures sur 24 parce qu'on vit ensemble, je pense que c'est vraiment un leurre. Et puis, c'est un piège, un miroir aux alouettes. Enfin, c'est des années de malheur que tu te promets si c'est ça que tu cherches, parce que je pense sincèrement que ça n'est pas possible.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
Noémie, bienvenue.
Merci.
Bienvenue dans Histoire de Daronne. Très heureux de te faire parler de maternité. J'ai l'impression que tu as plein de trucs à dire sur le sujet. Alors, tu as plein de trucs à dire sur plein de sujets, j'ai l'impression.
J'ai globalement plein de trucs à dire.
Voilà. C'est très drôle parce qu'on est chez toi et juste à côté de moi, il y a sur ton canapé, il y a ce bouquin qui s'intitule Les Matriarches de Nadia Ferrouki. Aux éditions Albin Michel, donc t'étais en train de te préparer, je te disais, ce n'est donc pas qu'un personnage.
Non, je suis vraiment féministe.
De quoi ça parle d'ailleurs ce bouquin, c'est trop intéressant.
Sur effectivement les matriarches ou les matriarchies qui pourrait y avoir à travers le monde et tout, c'est un beau livre, donc avec des photos et tout, c'est super, c'est vraiment un livre de table basse quoi.
Est-ce que c'est inspirant?
Très. Après, effectivement, il y a toujours cet amalgame. On dit, il n'y a pas que des patriarcats, il y a aussi des matriarcats. Alors, non. C'est-à-dire que des matriarcats qui seraient les miroirs de patriarcats, c'est-à-dire où les hommes seraient discriminés, violés, excisés, mariés de force. Non, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé nulle part dans le monde. Il faut arrêter. Il y a effectivement certaines sociétés qui sont matrilinéaires, guerrières qui sont martyrs. Il y a plein de petites choses où effectivement il y a certaines sociétés où les femmes ne sont pas des paillassons, mais voilà, de matriarcat qui serait l'équivalent du patriarcat féminin, non.
Je t'ai lancé direct là.
Oui, fallait
partie de 0 à 1000, bim.
Mais je tiens à préciser qu'il est 8h30 du matin quand même.
Il est très tôt, mais t'es parti quoi.
Ouais.
T'es au taquet. T'as un enfant, t'as un petit garçon.
Oui.
Qui a 8 ans, c'est ça ?
8 ans et demi, oui.
Et tu me disais, moi, parfois, je dis que je m'en fous, en fait, c'est ma vie privée, je raconte peu importe. Donc là, c'est la vraie info ou on n'est pas sûr ?
Non, de toute façon, je dis toujours la vérité, c'est-à-dire je dis toujours la vérité de ce que je ressens, de mon expérience, etc. Après, le prénom de mon ou de mes enfants, leur sexe, leur machin, etc., si c'est pas pertinent, effectivement, je raconte ce que je veux.
Là, ça va l'être. Parce que j'imagine à quel point c'est pas forcément simple pour toi de te retrouver avec un petit mec de 8 ans à éduquer dans cette société.
Ouais.
Surtout vu ton parcours de sensibilité féministe, etc. Quoi.
C'est très très dur.
On va en parler. Mais avant ça, je voudrais te demander, d'où vient ton désir de maternité ?
d'un rêve.
D'un vrai rêve.
Ouais, ouais, d'un vrai rêve.
Ou alors en fait, d'un rêve bleu.
Non, d'un vrai rêve que j'ai fait la nuit, quoi, tu vois. En fait, j'ai jamais été particulièrement attirée par ça. Enfin, d'abord, j'avais pas de modèle, j'ai pas eu de parents vraiment. Enfin, j'ai eu.
On va en parler aussi.
Ouais, complètement.
J'ai entendu parler de ton parcours.
Ouais, c'est ça. Enfin, et particulièrement ma mère qui était vraiment. Voilà.
Je t'ai entendu dire dans un podcast que pour ta mère, en fait, t'étais un sac à main quand t'étais gamine.
Oui, c'est ça, un
cette
beau sac à main.
C'est incroyable.
Ouais. J'ai pensé un jour parce que les gens qui nous ont eu avec elle me disaient, mais elle disait que t'étais belle, que t'étais merveilleuse, elle te faisait des câlins, des bisous, etc. J'ai dit oui, bah, effectivement, moi j'ai des très très beaux sacs à main, je les adore, je les trouve merveilleux, je les ai avec moi tout le temps, mais c'est des sacs à main. C'est-à-dire, c'est pas des humains, je ne leur reconnais pas d'humanité, d'individualité, je leur reconnais pas le droit de faire des choix, le droit de dire non, le droit d'exister, et je les prends quand j'ai envie de les prendre, je leur demande pas leur avis, et je les repose quand j'ai envie de les reposer, puis je les jette quand j'en ai marre. Bah voilà, c'est
un
pas ce que j'appelle.
Une sorte de trophée, quoi, tu vois, t'as la sensation.
Non, oui, peut-être un peu trophée, effectivement, mais non, je crois que surtout qu'elle était. En fait, j'ai appris aujourd'hui à lui pardonner parce que je sais qu'elle a fait ce qu'elle a pu. En fait, elle était totalement maniaco-dépressive, elle était alcoolique, elle a elle-même eu une enfance terrible, elle a été abusée, etc. Donc, elle a fait comme elle a pu, mais le résultat est que moi, j'ai pas eu de maman du tout. C'est-à-dire, j'ai eu une maman, c'est même pas défaillante, c'est. Enfin, à 5 ans, j'étais élevée par les voisins, à 6 ans, j'étais chez ma grand-mère, à 7 ans, j'étais en pension. Et je me souviens très bien du jour à 5 ans où je me formule, où je dis ok, je n'ai pas de parents, je suis seule au monde. C'est-à-dire que je le formule. Ouais. Donc ça veut dire que je le savais, moi je pense que je l'ai su dès ma naissance, que j'étais toute seule, quoi.
Incroyable. J'imagine à quel point ce parcours-là d'enfant en fait a dû impacter ton parcours de maman.
Mais c'est pour ça, en fait. Alors, donc, dans un premier temps, effectivement, j'avais aucune envie parce que pas de modèle, parce que tout ça. Et puis, j'étais pas du tout. Enfin, tu vois, genre, les enfants, les bébés, ça m'intéressait pas du tout. Je me souviens d'un très, très bon ami à moi, un jour, qui me dit, mais tu te rends compte que mon fils a 5 ans et que tu t'es jamais intéressé à lui? Je dis, mais oui. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je suis absolument confuse, mais effectivement, toi, t'es mon pote, je t'aime, mais ton enfant, je suis désolée, mais je m'en fous complètement. Ça ne m'intéresse pas. Donc les enfants des autres, c'est comme les gens qui disent qu'ils voient un bébé, moi pas du tout.
Ça sent, t'avais pas besoin de préciser.
Ah oui, c'était vraiment, pour moi c'était juste quelque chose qui venait perturber les conversations, qui faisait du bruit, c'était juste chiant, donc voilà. Mais je me disais pas, j'aurais jamais d'enfant, j'avais juste, c'était pas un sujet, quoi.
T'avais pas formulé, non. En tout cas, ce truc de, c'est pas d'enfant pour moi, quoi.
Ouais, ouais. Et un jour, j'ai fait un rêve. Mais un rêve extrêmement réaliste, extrêmement précis. C'est-à-dire, je me souviens encore aujourd'hui comment j'étais habillée dans ce rêve, la lumière. Je me souviens de ce rêve encore vraiment comme si c'était un souvenir. Et j'arrive chez des copains, je suis en voiture, et j'arrive chez des copains, copines pour un week-end. Et en fait, c'est mon anniversaire bientôt. Enfin, il me faut un anniversaire surprise, ou alors je le sais, je ne sais pas. Mais j'arrive dans cette maison. Et j'ouvre la porte, et là, il y a tous mes potes.
Surprise!
Ouais, surprise! Et ils ont un bébé dans les bras, et ils me disent, cadeau, c'est pour ton anniversaire. Et un bébé qui vient de naître. Et donc là, je me retrouve avec ce bébé, et donc ça, je suis maman en une seconde. Tu vois, j'ai pas 9 mois pour me. Non! C'est... Je suis maman, paf! Là, tout de suite. Et donc. Et c'est ça qui était fou, c'est que le rêve était très réaliste. C'est-à-dire que là, je panique. Je panique et je pense à des trucs très concrets, genre, mais j'ai pas de siège auto dans la voiture, comment je vais le ramener à Paris, j'ai pas prévu, j'ai pas de lait, j'allaite pas, enfin, ah là là, donc des trucs extrêmement concrets, tu vois.
T'es dans le prendre soin, t'es pas là en train de dire non, je te le rends,
non,
c'est pas à moi.
Mais j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est-à-dire que la question de le refuser ne se pose pas.
Ouais.
C'est la question de. Tu vois.
Comment il va survivre?
Voilà, comment il va survivre?
Comment je vais faire en sorte qu'il survive?
Et c'est ça, et avec en même temps énormément de joie. Vraiment une joie. Et en fait, je prends cet enfant, je le prends dans mes bras dans le rêve. Et à ce moment-là, je ressens un truc que je n'avais jamais ressenti de ma vie, ni dans la vraie vie, ni dans les rêves. Vraiment bliss. Enfin, pour le coup, tu vois, une espèce d'extase, de bonheur, mais énorme. Et je prends cet enfant, je lui fabrique un siège auto. Et on part ensemble. Et donc, vraiment, en dépit de toute règle de sécurité, je le mets sur le siège passager à côté de moi, dans un lounge artificiel.
À 45 ans, moi aussi, tu sais, on fumait
dans les voitures.
Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de siège auto à l'époque, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Voilà. Au pire, les enfants, ils passeront à travers le pare-brise, on en fera un autre, allez, c'est pas grave.
On peut en faire autant qu'on veut. Mais et donc, mais j'avais quand même conscience que c'était qu'il y avait ce danger-là, que c'était, enfin, c'était pas super. Mais j'aimais cet enfant. J'étais tellement. Et là, on partait. On était du coup tous les deux, cet enfant et moi, dans la voiture. Et on partait, et j'étais heureuse. On partait donc vers une nouvelle vie, une vie où on allait être ensemble et tout. J'étais heureuse, mais j'étais tellement heureuse. Et pendant tout ce trajet en voiture, qui était tout le temps de mon rêve, je listais. En fait, je n'avais que des pensées rationnelles d'organisation. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, je vais demander machin, je vais truquer, tu vois, tout pour en prendre soin, le nourrir, le loger, l'inscrire à la maternelle, à la crèche, au jardin d'enfants. Je savais pas de toute façon à cette époque-là dans quel sens ça se faisait, qui allait s'en occuper, qui allait le garder. Enfin, tu vois, j'étais que surtout hyper rationnel, mais tout ça porté par une joie. Voilà. Et quand je me suis réveillée, j'avais c'est même pas envie d'enfant, c'est que j'étais mère. Je me suis réveillée, j'étais mère. Donc j'étais mère qui avait pas d'enfant. Donc il fallait régler ça, quoi.
C'est mon 40e épisode, je crois, première fois qu'on la sort, celle-là. C'était un rêve, on m'a donné un enfant et je fais bien, très bien. J'imagine à quel point, quand tu te réveilles, t'es chamboulé.
Ah, mais chamboulé, c'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais une enfant et là, je suis devenue une maman. C'est-à-dire que le fait que j'ai pas d'enfant ne changeait rien au fait que j'étais devenue une maman dans la nuit, quoi.
Incroyable.
Ouais.
Et ça a changé quoi dans ton quotidien?
Bah alors ça, du coup, ça m'a fait basculer dans ce monde terrible dans lequel on végète des millions de femmes, qui est ce monde de « Ah bah putain, dis donc, alors, comment ça se passe? J'ai 35 ans, je veux un enfant, j'en ai pas. » Et d'un coup, bah, tes rêves romantiques et tes exigences en termes de mec, bah, tu te les roules fin, puis tu les mets bien dans le cul. Parce qu'en fait, t'as une horloge biologique. Ouais. Et en plus, il n'y a pas que toi qui l'entends, l'horloge biologique. C'est-à-dire que les gars qui passent un peu trop près, ils entendent le tic-tac, ils partent en courant. Donc, c'est-à-dire que même des histoires.
Pas tous les gars, mais.
Bah,
pas...
En tout cas, ça.
C'est trop fort, je trouve. Si c'est trop fort dit, si c'est trop fort amené, ça peut faire peur, effectivement.
Mais sauf que parfois, tu ne le dis même pas. C'est juste que tu dis ton âge.
Ah, yes.
Et ça fait tic-tac dans la tête des gars. Okay. Et ils n'ont pas tort, parfois, mais parfois, oui. Enfin. En tout cas, c'est la faute de personne, ni des hommes ni des femmes, mais il y a un truc qui se passe qui fait que c'est baisé. Genre, tant que tu n'auras pas d'enfant, ta vie sentimentale sera foutue. Tu ne pourras plus jamais avoir des rapports normaux, que ce soit dans toi, ce que tu vas chercher, impliquer, demander, ou dans ce que les hommes vont percevoir à tort ou à raison, c'est mort.
Et tu es célibataire à l'époque, donc tu n'es pas dans une relation amoureuse, ou alors en tout cas, tu n'es pas dans une...
Je ne me souviens plus.
Parce qu'il y avait peut-être tu avais un gars à dispo, je ne sais rien.
Non, j'étais célibataire à l'époque. Non, j'avais plutôt 28 ans, 29 ans, je pense, un truc comme ça. Je me souviens plus quel âge j'avais, mais effectivement, j'étais célibataire.
Ok.
J'étais célibataire, mais en tout cas, voilà, j'ai pénétré ce monde tellement injuste où, depuis que t'es petite, on te parle du grand amour, toutes les comédies romantiques, les contes de fées, ça va être super, et puis là, on te dit, en fait, c'est mort.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir le choix. En fait, le choix que tu vas avoir, c'est ta vie sentimentale ou ta vie maternelle. Mais tu ne vas pas pouvoir cumuler. Enfin, après, tu peux avoir de la chance. Mais en tout cas, ce n'est plus entre tes mains. C'est mort. C'est le moment où tu choisis, où tu décides. C'est mort. C'est fini.
Incroyable.
Bisous.
Bisous.
Ouais, mais je trouve ça tellement injuste parce qu'en plus, on n'en parle jamais de ce truc-là. On est d'accord qu'on est entouré de couples hétéros extrêmement déséquilibrés, où souvent les femmes sont beaucoup plus apprêtée, souvent plus jolie, parfois plus intelligente, plus gentille, plus compétente. Elles font plus de choses. Elles sont, enfin, je veux dire, c'est hyper déséquilibré. C'est un gars qui est là, les mains dans les poches, et puis il vide. Hey, c'est ouais. un gars, quoi, tranquille. Et puis une meuf qui, hop, qui est là, tu vois, qui fait des numéros de claquettes toute la journée. Et en fait, on s'est habitué à ce truc-là.
Ouais.
Et on a l'impression que bah, c'est comme ça. Être un homme, ça doit avoir une valeur en soi qui fait que ça équilibre tous les efforts que font la meuf. Non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas le choix, les gars.
Bah, y a... Alors, tu vois, je pourrais tempérer un peu ça. Alors, après, je suis un mec, hein, tu vois.
Non, mais je t'en prie. Il faut me tempérer.
Pour moi, il y a aussi ce truc où, en fait, tant que des meufs, et je te dis ça parce que j'ai plein d'amis qui ont 30-35 ans et qui ont elles-mêmes des mecs, ou qui ont des amis qui ont des mecs nuls, tu vois, alors qu'elles, elles sont canons. Et j'ai un vrai truc à chaque fois où je leur dis, mais en fait, pourquoi tu donnes du temps, de l'attention, alors que toi-même t'es féministe, que toi-même t'as pensé à ça, etc. Alors certes, t'es féministe dans ton cercle professionnel, etc. Mais intimement, dans chez toi, dans ton couple, au sein de ton couple, bah, en fait, tu donnes du temps, de l'énergie, tu consacres à un mec médiocre, en fait. Si toutes les meufs géniales, Ultra Queen, Beyoncé, machin, tout ce que tu veux, décidaient d'arrêter de donner du temps et de l'énergie à des mecs médiocres, peut-être que les mecs seraient obligés de monter le niveau, quoi.
Je suis hyper d'accord. Et c'est
la barre est tellement au sol.
Ah ouais, on est d'accord, éclatée au sol.
Elle est même sous le sol, quoi, tu vois.
Mais je te remercie effectivement d'être un homme et de valider cette observation que j'ai eue. Effectivement, quand on a des meufs canons avec des mecs éclatés au sol, on dit, mais pourquoi?
Mais arrêtez de donner de l'attention.
Hyper d'accord, c'est le sujet, c'est vraiment le sujet de mon prochain spectacle, Harmonisation, qui ne parle que de ça. C'est-à-dire, comment on fait quand on est une femme féministe et hétéro? Enfin, tu vois, comment on fait? Parce que je le vois bien, toutes ces copines, effectivement, qui sont des queen bees, machin, etc., et puis qui se retrouvent comme esclaves domestiques, tu vois, sur un claquement de doigts, oui. Tu es là, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et dont moi. C'est-à-dire, moi, j'ai été une geisha toute ma vie. Et du coup, je peux répondre à ta question, c'est qu'en fait, on n'y arrive pas, on est dressé par des siècles de patriarcat. Donc, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'à peine pubère, il faut qu'on trouve le géniteur avant notre date de péremption. Donc déjà, tes exigences, bah, tu les diminues par deux. Enfin, tu vois. Et une fois que t'as trouvé le gars, il faut le garder. Non, une fois que t'as trouvé le gars, il faut lui donner envie de te faire un enfant et de t'épouser, de rester avec toi et de machin, etc. et de nidifier. Et ensuite, il faut le garder.
Est-ce qu'on peut dire que ça ne marche pas de donner envie à quelqu'un de faire un enfant?
Ah ben non, mais c'est même pas... Enfin, laisse tomber. C'est-à-dire que de toute façon, depuis le départ, tout ce que je te dis, c'est foireux. Mais c'est ça qu'on nous dit, c'est ça qu'on nous dit, et c'est ça qu'on nous dit depuis le berceau.
C'est dans les gènes, en fait, tu vois.
Non, mais non, pour moi, dis pas ça. Non, mais jamais de la vie, mais
pour
non,
moi,
justement.
Mais tu dis, on est dressé. Pour moi, il y a du transgénérationnel. Il y a du truc.
Ah oui, mais c'est pas génétique. Transgénérationnel, ça veut dire que c'est une psychologie qui se transmet.
Ouais, mais tu vois, il y a l'épigénétique auquel je m'intéresse un petit peu, qui explique en fait que les traumas et toutes les, bah, globalement tous les trucs qu'on vit en soi finissent par se transmettre dans l'ADN. C'est flippant, hein. Mais c'est... Voilà.
Oui, c'est flippant. Et...
Ça veut dire qu'en moi, potentiellement dans mon ADN, j'ai potentiellement un guerrier dans mes ancêtres loin, tu vois, qui allait buter des mecs, etc. Quoi. Incroyable ou pas?
Incroyable. Et ça, non, et mais sauf que moi, je suis persuadée de ça, que t'as en toi un guerrier qui a été. Mais pour moi, ça se traduit pas en termes de gènes, en termes d'ADN. Okay. Ça se traduit en termes d'héritage, de choses qui sont très fortes, très très fortes. Alors ça, moi, je suis moi-même des psys transgénérationnels et tout, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour moi, alors je suis pas scientifique, donc je peux pas te le prouver.
Si vous êtes scientifique et vous travaillez dans l'épigénétique, envoyez-moi un message, ça m'intéresse trop.
Bah pour moi, c'est pas génétique, et surtout c'est important que ça le soit pas, parce que sinon c'est mort.
Non, ça.
Bah si c'est génétique, c'est mort.
Bah,
si.
faut prendre un peu de, faut aller contre,
Non, mais c'est le principe des gènes. C'est que, non, c'est ça pour le coup. Donc
c'est
l'acquis,
il y a le social, quoi. Tu vois,
mais justement, le génétique, c'est.
C'est acquis.
C'est inné.
C'est inné, pardon. Il y a l'inné, il y a l'acquis, et en fait, faut l'apprendre.
Bah, en fait, le principe de l'inné, c'est que c'est voilà. Donc c'est pour ça que je veux surtout pas. Enfin, c'est les féministes différentialistes qui disent voilà, je suis pas du tout d'accord avec avec cette vision du monde. Enfin, c'est vrai que je prétends exactement l'inverse. Ouais. Je prétends, comme Simone de Beauvoir, que tout est social, tout est construction sociale et que. Mais
j'étais un peu fait diverger.
Non, mais c'est bien, tant mieux. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on est que ce soit la pornographie, les contes de fées, les pubs, les films, les médias, on nous indique à nous les femmes d'abord qu'on doit être mère. Sinon, on n'est pas accompli, on est une demi-femme, on a raté notre vie. Et surtout, qu'on doit être en couple. Alors ça, c'est une injonction sociale qui pèse aussi beaucoup sur les hommes, mais beaucoup plus sur les femmes. Mmh. Un homme célibataire, ça va être un séducteur, sexy, libre, indépendant. Et nous, on va être des pauvres meufs ratées, incomplètes, défectueuses.
Voire des salopes.
Voire des salopes, évidemment. Ça, c'est spécial.
C'est important.
Cadeau, c'est pour moi. Hashtag Sista. Donc c'est hyper dur, tu vois, de se construire en dépit de ça. Et puis en plus, ça va se mettre après dans mille petits détails. T'as des femmes, en fait, elles n'ont pas le choix parce que au moment de la naissance d'un enfant, etc., elles ont, comme elles ont 8 semaines de congé maternité obligatoire, merci, et que les hommes, en tout cas à l'époque, avaient 11 jours maximum facultatifs, bah, évidemment, et donc c'est elles
qui. Pour l'instant, c'est toujours 6 semaines facultatives. Hein, donc,
pour les hommes.
Pour le congé paternité.
Oui, ça, il n'y a toujours pas de congé paternité obligatoire. Donc évidemment que leur carrière s'est pris un gros coup de pelle dans la gueule, etc. Que très souvent, sur la pression sociale ou la pression de leur mec ou leur propre pression, etc., bon, bah, elles sont passées sur un... Bref, elles sortent de là, elles gagnent 2 fois moins que leur mec. Et puis leur mec leur dit, j'achète une maison, etc. Pour équilibrer, toi, tu vas t'occuper des courses et des machins, etc.
Oui, voilà. Le grand classique.
Donc voilà, je vivrai dans une maison en pot de yaourt, ça va être super.
J'en profite pour dire, écoutez mon podcast Histoire d'argent, où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent, parce qu'on parle aussi de ça, quoi.
Très bien.
Très important, hein.
Putain, mais t'as combien de podcasts ?
12. Non, j'en ai 5 en vrai.
J'adore. Mais voilà, et donc il y a un moment où en fait t'as plein de femmes qui n'ont pas le choix. En fait, elles sont prisonnières financières de leur couple, pour pas dire de leur mec. Je dis de leur couple et pas de leur mec, parce que si je dis de leur mec, ça impliquerait qu'il y a une malveillance de la part de l'homme qui la réfléchit.
Ouais.
Alors que non, c'est vraiment un système qui se met en place à l'insu de tout le monde la plupart du temps.
Et que tu reproduis aussi peut-être de tes propres parents.
Et que tu reproduis tes propres parents. Et qui fait qu'en fait t'as plein de femmes qui n'ont juste pas le choix. Et elles ont beau avoir un mec, comme on disait, éclaté au sol, et qui en plus, ça se trouve, va mal les traiter, ça se trouve, va leur foutre une petite rousse une fois de temps en temps, mais en fait, elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, donc, c'est ce dressage qui fait que même si moi, j'ai la chance d'avoir une indépendance financière, mais j'ai accepté un nombre de choses absolument inacceptables au nom de l'amour, de ce qu'on m'a dit qu'était l'amour. En fait, on te fait croire que l'amour, ça peut tuer, que l'amour, ça peut faire mal, que l'amour... Ça... Non, en fait, non, jamais de la vie. L'amour, c'est censé apporter que du bonheur et de la joie, sinon, casse-toi. Mais sauf qu'il n'y a pas un conte de fées qui te dit ça.
Bien sûr.
Pas un.
Conte de fées dit juste ferme bien ta gueule, la princesse.
Et puis voilà. Dors et puis tu seras réveillé par un baiser extorqué non consenti.
Alors, oui, ceci dit, j'aime bien dire que La Belle au bois dormant, quand même, si tu le remets dans le contexte, à l'époque, la meuf, elle désobéit à son père et ça, c'est totalement badass.
Oui, mais elle le paye cher.
Bien sûr.
Parce que c'est ça qu'on te montre.
Oui, bien sûr.
On te montre des meufs badass, mais elle le paye.
Toujours.
La Gwyn meurt toujours à la fin, hein, tu sais.
C'est important. Faudrait quand même pas qu'elle vive, quoi.
Ah bah non. Non, celle qui a osé renoncer à l'hétérosexualité et aux hommes, non, elle meurt à la fin.
C'est sûr.
Elle meurt d'un cancer, généralement, un truc vraiment pas cool.
Ça lui apprendra.
Bah, ça lui apprendra.
On va être dans les rails, là.
Salope de Gwyn. Bisous, les filles, évidemment.
Ok.
Voilà.
Mais donc, tu finis par. Tu trouves un géniteur, un mec avec qui tu vas faire un enfant.
Oh là là, non, il s'est passé beaucoup de trucs entre les deux. Non. Donc je pénètre dans ce monde atroce et je vois bien que ça va pas le faire. Et en fait, comme toujours, j'ai vraiment toujours ce tempérament rebelle. Ça me convient pas. Je me dis non, c'est pas juste. Je suis pas ok pour ça. Donc je décide que je vais régler le problème enfant à côté. Que je vais faire un enfant toute seule, donc soit avec une copine, soit avec un copain, soit avec un mec d'un soir. Enfin, je vais me démerder, je fais un enfant comme ça.
C'était il y a
15, 16 ans.
Ouais.
17. Non, c'est il y a longtemps.
La meuf est précurseuse.
Ah ouais,
si
ouais.
Je peux me
mais d'ailleurs, j'étais. Non, mais tout le monde me regardait comme une tarée.
Oui.
Parce qu'évidemment, moi, je parle de ma théorie à tout le monde.
Oui.
Je disais, donc toi, j'ai fait un enfant avec machin, comme ça, hop, c'est réglé, j'ai plus le tic-tac dans mon ventre, et après, du coup, je peux être à égalité avec les mecs.
Goldman avait raison. Finalement.
Exactement. À la fin, elle est toute seule. Non, c'est pas si facile de me libérer. Les deux, il a toujours raison.
Oui.
et donc, j'avais vraiment ce projet. Et à l'époque, j'avais un trio de potes. Une fille, un garçon et moi. Et donc j'en avais parlé au garçon. Et donc c'était une possibilité. Enfin, il avait vraiment entendu ma. Mais il avait tellement lui envie d'une famille traditionnelle, machin, etc. Et puis j'en avais tellement envie pour lui qu'il me le souhaitait aussi pour moi, oui, par amitié. Il disait mais non, fais pas ça et tout. Donc je m'étais retournée vers ma pote et on était tombés d'accord. On s'était dit bah voilà, en fait on se fait faire un enfant. De toute façon, on baisait à tire-larigot, donc on se fait faire un enfant, hein, par n'importe qui, on s'en fout. Enfin, on fait péter un préservatif un soir. Qui le saura, de toute façon.
Ça me trigger un peu.
Ah bah tu m'étonnes. Enfin, ceci dit, j'aurais même pas eu à faire péter un préservatif dans la mesure où, oui, les trois quarts des gars avec qui je couchais
n'en ont rien à foutre.
Ne mettaient pas de préservatif. Et on avait rien à foutre de savoir si j'allais devoir avorter le lendemain, oui, etc. Donc franchement, c'était que la monnaie de leur pièce.
Hein. J'entends. Dans ce cas-là, j'entends.
Ouais, et j'aurais jamais été capable, moi, pour le coup, d'arnaquer un mec. Oui. J'aurais jamais été capable de lui faire croire. Non,
lui faire
jamais
un enfant dans le dos, quoi.
Non. Enfin, là, ça aurait été un enfant dans le dos, mais dans le dos parce qu'il, qu'il s'est retourné, quoi. Voilà. Et donc, on s'était dit, voilà, vu tous les connards que machin, etc., on n'aura pas de problème à tomber enceinte. Et après, on élève nos deux enfants ensemble.
Ah ouais, ok, vous aviez un projet de.
Ouais.
Ok.
Bah, c'était surtout mon projet que je lui avais expliqué. Et comme elle avait opiné, je m'étais dit, c'est ok.
Incroyable.
Et puis, ouais. Et j'étais partie là-dessus. Et puis, et au même moment, alors je peux le dire parce que ça a été. Je peux citer la personne, ça a été dit publiquement plus tard. À ce moment-là, je jouais avec Pierre Palmade dans une pièce de Laurent Ruquier. Ah bah voilà, j'avais 28 ans. Comme ça, c'est sûr. J'avais 28 ans à ce moment-là. Et je lui fais part de toutes mes réflexions. Il trouve ça super, etc. Et on était très, très amis à cette époque. Et en fait, il était amoureux d'un garçon qui s'appelait Kevin, que j'adorais. Et on était très potes tous les trois. Et en fait, Pierre me dit, mais moi, si tu veux, je serais OK pour te faire cet enfant. Et donc, on se tape dans la main. Et je lui dis, bah, écoute, si à 36 ans, qui est...
Ah, ce fameux plan de ans, RDV. Dans
voilà, exactement. Qui est okay, soi-disant l'âge limite pour Proquette. Il y a 36 ans, j'ai pas de mec, pas d'enfant. On en fait ensemble. Top là. Je tiens à préciser qu'à l'époque, Pierre était sobre. Il avait fait un énorme travail sur lui. Il buvait pas, il fumait pas, il se droguait pas, rien. Donc il était complètement en pleine conscience quand on s'est fait cette promesse. Mais quand même, un mois après, très gentiment, c'est lui qui vient me voir en me disant, mais tu sais, c'était la nuit, on en a parlé, etc. Mais je veux te redire qu'en fait, là, il s'est passé un mois.
C'était pas une blague.
C'était pas une blague. Ça fait un mois que j'y pense. C'était pas une blague. Et on pleure et tout, etc. Et avec Kevin, et on s'était même dit, on fera l'amour tous les trois, et puis on ne sait pas si ça sera l'enfant de Kevin ou de Pierre, et on verra bien. Enfin, tu vois, t'es parti dans notre truc et tout. Ok, super.
Waouh.
Quelques temps plus tard, Kevin et Pierre se séparent. Et Pierre me reparle du projet. Mais c'était vraiment genre 2 ans plus tard, tu vois. Donc c'était un vrai. Ah ouais. Ouais, un vrai.
C'est toujours là, quoi.
Ouais, ouais. Et puis. Donc 2 ans plus tard, on en reparle. Et puis là, on se dit, mais on ne ferait pas l'amour ensemble. Bah non. Bah on ferait avec une pipette, ok. On ferait une insémination artisanale. avec une pipette de Doliprane, chacun son porno et tout, ok. Très bien. Et voilà, ce truc reste dans notre tête. Je rencontre un homme. Et je sens que son désir de paternité est pas. Enfin, je sens que ça va être compliqué. Enfin, je te dis ça comme si c'était. Non, je découvre et j'en pleure et c'est horrible. Et c'est une atroce déception que cet homme que j'aime, en fait, il va pas vouloir d'enfant. Enfin, okay. En tout cas, ça va.
Vous avez la discussion ou tu sens.
Non.
Tu le sens sans vraiment mettre le sujet sur la table.
En fait, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, mais on était ensemble depuis très peu de temps. C'est posé la question. Moi, j'étais prête à le garder. Et on a décidé. J'étais enceinte vraiment de 3 semaines, quoi. On a décidé que j'allais avorter, mais en gros, c'était on en refera un quand ça sera. Ouais. Voilà. Et en fait, quelques temps plus tard, et en fait, cet avortement, il nous a beaucoup abîmés. Pas l'avortement, la décision.
Oui.
Parce que l'avortement s'est très bien passé. C'était une IVG médicamenteuse. Ça m'a pris. Enfin. C'était.
Oui, voilà. C'est plutôt d'avoir cette décision à prendre si tôt dans la relation. Quoi.
Ouais, ça nous a beaucoup, beaucoup abîmés. Et quelques temps plus tard, effectivement, j'ai senti que. Alors, je parle de manière justement horriblement rationnel, mais malheureusement, c'est ça aussi, ce monde dont je parle, dans lequel végètent des millions de femmes. C'est que c'est un monde de calcul, quoi, un monde d'épicière, dans lequel on te projette malgré toi, et tu te retrouves à endosser un rôle que tu détestes, mais en fait, t'as pas le choix. Enfin, il s'agit de ta vie, quoi. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte à un moment que parier sur lui, c'était beaucoup trop dangereux. Qu'il risquait à tout moment, enfin, et trop tard peut-être, de me dire en fait non, voilà.
Waouh, parier sur lui, c'est fort.
J'ai employé ce mot violent exprès parce qu'en fait, c'est la vérité. Mmh. Après, on peut le mettre avec des fleurs et des machins, mais c'est la vérité.
À la fin, c'est ça qui reste, quoi.
Ouais. Mmh. Et j'emploie ce mot dur aussi parce que. Enfin, pour faire comprendre aussi aux hommes qui nous écoutent que j'imagine que ça leur fait pas plaisir d'être des géniteurs, des étalons sur lesquels on parie. Ben alors bougez-vous le cul pour qu'on soit pas dans cette situation, quoi. Enfin, bougez-vous le cul pour que on change les mentalités et qu'on puisse être à égalité sur le marché du love et qu'on soit pas, nous, obligés de faire des calculs sur votre dos, quoi.
Mais pas que sur le love, tu vois, sur le marché du love. Pour moi, le truc que je vois, parce que bon, j'ai histoire de daron, c'est aussi sur l'idée même de créer un enfant. Je crois qu'il y a beaucoup de mecs qui finissent par faire un enfant parce que leur femme veut un enfant et qui est moteur dans le truc. Et tu sens qu'en fait, ils finissent par apprendre au fil de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de mecs, tu vois, qui m'ont dit bah, « moi, j'ai eu un désir de paternité très fort depuis que je suis tout petit, etc. » Il y en a, mais pas beaucoup. La plupart des mecs, généralement, suivent le jeu, suivent le lot. Ou tu vois, il y a aussi peut-être un peu ce truc de « ok, on est ensemble depuis un certain nombre d'années, c'est peut-être l'étape suivante à cocher, etc. » Et pour moi, il y a aussi ce truc de faire... apprendre au petit garçon à prendre soin et à faire attention à l'autre et à développer de l'empathie, etc. Mais c'est bon, là, on parle de ça sur, pour moi c'est un travail sur plusieurs générations, quoi. Parce que pour moi les mecs, et après on peut, sociétalement aussi, comment se passe la maternité? Bah déjà ça s'appelle la paternité. Voilà, donc et moi pour l'avoir vécu deux fois, j'ai deux filles. T'es complètement à côté, quoi. T'es là et tu fais, bah, c'est quoi mon truc là? Alors, c'est trop intéressant parce que c'est un peu. Tu mets un peu d'humilité pour une fois dans ta vie de mec, tu vois. T'es là, ah ouais, je ne suis plus le truc central, le sujet de préoccupation. Mais bref, tu vois, pour moi, il y a aussi
Bien sûr.
Quoi.
Mais d'ailleurs, j'ai appris hier, parce que tu parles d'apprendre aux petits garçons à prendre soin, etc. J'ai appris hier que les. C'est une étude suédoise, donc sur des Suédois et des Suédoises, mais bon, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait différent ici, que les petits garçons... non, que les hommes qui ont pris leur congé paternité et qui donc se sont occupés d'enfants ne vont plus aux putes. Alors, au début, t'es là, mais c'est
incroyable.
Quoi le rapport? Et en fait,
bah,
si,
oui.
Le fait de prendre soin... et de respecter l'humain, tu te dis en fait non, je peux pas louer un corps, je peux pas acheter un corps, en fait non, je peux pas, c'est pas, enfin non, c'est pas possible.
Ok, ça m'intéresserait de voir la différence entre les hommes qui ont des garçons et les hommes qui ont des filles.
Je suis sûre que l'étude a pris soin de.
Et
je te dirais, j'essaie de retrouver. voilà. Mais c'est intéressant, tu vois.
Incroyable.
Ouais. Mais de toute façon, c'est sûr que le soin, t'en parles depuis le début du podcast et c'est intéressant parce qu'effectivement, je l'avais jamais pris sous cet angle. Mais t'as raison, je pense que c'est crucial le soin et que c'est cet endroit-là effectivement que va solliciter la paternité qui après change une vie, change le monde vraiment.
Exactement.
Ouais, je suis très d'accord avec ça.
Et de commencer par, tu vois, c'est intéressant parce que je vois les mecs qui ont des filles être beaucoup plus ouverts aux questions du féminisme que les mecs qui ont des garçons. Et en fait, c'est dingue de se rendre compte que en fait ils déclenchent de l'empathie à ce moment-là pour leur enfant. Pour leur fille, alors que bah, ils l'ont jamais fait avec leur femme ou leur compagnon. Quoi,
ou leur mère.
Bah, oui, alors pour moi, leur mère, après, leur mère est plutôt dans... On va prendre... Pour moi, souvent, les mamans, c'est... Ouais. Pas les mamans, hein, tu vois. Donc
non,
ça marche pas trop, je trouve, sur les mamans, parce que leurs mamans prennent soin d'eux, etc. Mm. Mais il y a un peu aussi de la loyauté, tu vois. Comme maman a pris soin de moi, il faut que je prenne soin d'elle.
Ouais.
Ce qui marche pas vraiment avec,
non, c'est pas la même chose.
Avec leur meuf, quoi. Mm. Voilà. Ok, donc Pierre Palmade.
Ouais, nanana, oui.
Finalement,
voilà.
La pipette.
Et donc, finalement, donc je suis avec. Je suis avec cet homme. Je commence à avoir 35 ans. Et on se reparle avec Pierre. Et on décide qu'on va le faire.
Incroyable.
Alors que je suis encore avec cet autre homme, mais qui a fini par. Formulé clairement
qui voulait pas d'enfant
et donc et moi je lui dis bah moi j'ai pas envie de te quitter mais je veux un enfant donc je vais faire ça à toi de jouer Donc, est-ce que du coup tu dis non, allez, viens, je t'en fais un, ou est-ce que je te quitte, enfin, mais en tout cas, moi, je ne veux pas te quitter, je t'aime, donc je reste. En revanche,
moi, je vais faire un enfant.
Je vais faire un enfant.
Et ouais. Il sera avec moi. Et
voilà.
Peut-être avec toi.
C'est ça.
On ne sait pas. C'est toi qui décides. Trop bien.
Et donc, on a eu ce rendez-vous avec Pierre qui était génial. Il est venu me chercher, m'emmener au reste dans un grand restaurant avec un dîner en 12 services, je crois. Et c'était hyper drôle parce qu'à chaque fois, tu avais le serveur qui était là. Et voici un lit d'oignon, machin. Et Pierre, s'il vous plaît, vraiment, on a des trucs à se dire. Enfin, posez le truc, on mangera, on verra bien ce que c'est quand on le rend dans la bouche. C'était hyper drôle.
Voilà, les sujets sérieux, là.
Voilà. Et Pierre qui était en costard et tout, hyper chic, hyper beau. Et on a eu cette conversation. À la fois lunaire et à la fois magnifique, de concrètement, ok, comment on va vivre, où, qui va l'élever, comment, où est-ce qu'on habite, comment on va le fabriquer. Enfin, ok, donc maintenant qu'on. Parce qu'en plus, c'était 7 ans après la promesse. Donc il y a un moment, tu vois, c'était.
Incroyable.
Vrai.
Toujours là.
Et pourtant, on était passé par des hauts et des bas dans notre amitié. Enfin, voilà. Mais 7 ans après, voilà, on a cette conversation concrète en disant, ok, comment on fait Et j'avoue que moi, je me sentais très bien. J'étais hyper heureuse là-dedans. Je me sentais libre. Je me sentais en maîtrise et tout, tu vois. Voilà. Et puis, la vie a fait que finalement, j'ai quitté l'homme avec qui j'étais. Et j'en ai rencontré un autre. Et tout l'équilibre a...
En tout cas, t'as trouvé de l'équilibre dans ton couple.
Non, parce que il y avait enfin non parce qu'en plus cet autre c'était juste un amant, quelqu'un avec qui je couchais, donc ça c'était pas censé changer les projets, quoi.
Incroyable.
J'avais quitté mon mec.
Ouais.
Quelques temps plus tard, je rencontre cet homme qui est un amant, et en fait effectivement je me suis retrouvée... C'est-à-dire qu'au final, j'ai fait un truc très traditionnel qui est que je me suis mise à vivre avec l'homme que j'aimais et à qui j'ai fait un enfant. Sauf que, et c'est ça qui change tout, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait parce que c'était l'étape d'après. On n'est pas monté sur l'escalator qui nous a... C'est-à-dire qu'on s'est vraiment posé la question. Quand on s'est rencontrés, il savait très bien, il connaissait ma situation. Il savait que j'avais ce projet d'enfant avec Pierre... que je venais de rompre d'une longue histoire, que j'étais encore peut-être sans doute amoureuse ou pas disponible, etc. Enfin, que je voulais pas vivre avec quelqu'un, parce que déjà, j'ai jamais voulu vivre. Ah oui, c'est ça. C'est que la vie à deux, ça ne m'a jamais intéressée. Le mariage, le machin, enfin, tout ça, ça n'a jamais été ma cam. J'ai jamais compris pourquoi se tirer une balle dans le pied délibérément.
Ouais.
Ça m'a toujours semblé absurde. Après, chacune fait ce qu'il veut. Enfin, je juge pas du tout, mais pour moi, c'est absolument impossible. Et donc on faisait déjà appartement séparé avec mon ex, et donc là il n'était pas question qu'on vive ensemble, et lui-même était extrêmement indépendant, c'était parfait, enfin
voilà. Ça marchait bien.
Et puis bah voilà,
un jour
voilà, mais c'est pas par hasard, hein. C'est-à-dire qu'un jour je l'ai voulu.
Oui.
Ouais.
J'imagine. T'as pas l'air de faire les choses par
non.
Là.
Non, pas trop.
Je crois que les gens l'auront compris.
et pour le coup, on a eu une chance. Enfin, à l'époque, je mesurais pas ma chance. Maintenant, j'ai plein d'amis qui sont dans des parcours FIV, etc. Je mesure ma chance. Mais on a eu cette conversation. On a décidé qu'on allait faire un enfant et je suis tombée enceinte dans l'heure.
Incroyable.
Vraiment. Dans l'heure.
Et Noémie est fertile. Je déconne pas.
Oui, mais ça, ma mère m'a toujours dit, moi, si elle me regarde un peu trop dans les yeux, je tombe enceinte. Et je crois que je suis comme elle. D'abord, je suis beaucoup tombée enceinte. Effectivement, et y compris dans des conditions où, bah enfin, pourquoi t'es un stérilé? Eh oui, bisous.
Ah ouais.
Mais enfin, tu prends un pilule? Eh oui.
Oui,
donc je pense que je suis effectivement très fertile. Et là, et je pense aussi que ça devait être le bon moment ou la chance. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on a dit, viens, on fait un enfant, on a Ken, et j'étais enceinte. Et je le savais, vraiment, je l'ai su.
Incroyable.
Ouais.
Avant d'aller plus loin, je voudrais en placer une petite pour un épisode que j'ai fait dans l'histoire de Daron avec ce mec qui s'appelle Pierre, qui est gay et qui a fait un enfant avec sa meilleure amie à 40 balais.
Ça pourrait être moi.
Voilà, et en fait, ils ont décidé d'acheter un appart, d'acheter deux apparts, en fait, dont la chambre... Enfin, dont, en fait, en gros, il y a un sas, et le sas, c'est la chambre de l'enfant.
Bien sûr,
incroyable.
C'est ce qu'on voulait faire.
Ah bah voilà.
Ouais,
c'est écoute, ce un autre Pierre, c'est pas Pierre Palman pour
et
le
c'est
coup,
marrant, mais... en plus, on avait l'appartement qui était Boulevard de Bonne Nouvelle.
Incroyable.
Ouais, c'est marrant.
Ben voilà.
Et ils sont heureux.
Et ils sont très heureux.
Bien
en tout
sûr.
Cas, à l'époque où je l'ai interviewé, il était trop content. Et voilà quoi.
Mais je continue de penser que c'est. Enfin, Moi, c'est ce que je souhaite aux gens que j'aime. Mmh. C'est ce que je souhaiterais pour mon enfant. Je trouve que l'idée de vouloir qu'une seule et même personne soit le coparent idéal, l'amant ou la maîtresse idéale, le partenaire ou la partenaire idéale, et tout ça pour la vie et pour toujours, et 24 heures sur 24 parce qu'on vit ensemble, je pense que c'est vraiment un leurre. Et puis, c'est un piège, un miroir aux alouettes. Mmh. C'est des années de malheur que tu te promets si c'est ça que tu cherches, parce que je pense sincèrement que ça n'est pas possible. Je ne connais pas un couple autour de moi, même les plus super, les plus machins, je ne dis pas qu'ils ne sont pas heureux, mais moi, en tout cas, je ne voudrais pas de leur vie.
Ouais.
Il n'y a pas un seul, je ne connais pas un couple où je me dis « Ah, j'aimerais bien être à leur place. »
Ok.
Non, pas
zéro.
Un. Zéro. Zéro. Zéro, zéro, genre. Zéro. Et même, parce que parfois, j'en vois un, « Ah !» Et ça a l'air vraiment super, donc je commence à poser des questions, je pose des questions et tout. Et il y a toujours un moment où la personne dit « Ah bah oui, forcément, ça j'ai dû faire ce compromis. Oui, ça forcément, j'ai dû sacrifier ça. » Et en fait, pour moi, la notion de compromis ou de sacrifice pour quelque chose qui n'est pas une obligation légale, genre c'est pas une loi, c'est pas un service civique, c'est pas un métier, on va pas être rémunéré. La notion de je la comprends pas.
Mais alors, tu vois, le simple fait de faire un enfant avec quelqu'un, bah c'est déjà que t'as un coparent. Donc forcément, il va y avoir des compromis, tu vois. Avec mon ex-femme, par exemple, on n'est plus ensemble, on a deux enfants, on fait plein de compromis tout le temps, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir l'éducation de nos filles, quoi. Tu
ouais,
vois
mais pour moi, c'est un compromis, là, c'est une obligation. C'est un compromis que... Enfin, je sais pourquoi je le fais. C'est des compromis que j'ai fait pour avoir un enfant.
Ok.
Parce que je voulais un enfant.
Ok.
En revanche, je ne veux pas vivre à deux.
Oui.
Je ne veux pas... Enfin, il n'y a rien qui pourrait justifier que je fasse des compromis.
Oui, oui, ok, d'accord.
Il n'y a rien où je me dis, bah oui, ça vaut le coup de faire un compromis. Bah non. Non, j'adore ma vie. J'ai la chance d'avoir les moyens de vivre seule. Seule. Je déteste ce mot seule. Je suis tellement pas seule. J'ai tellement de potes, tellement d'amants, tellement de maîtresses. J'ai un enfant. Je bosse avec des... Enfin, je suis tout sauf seule. Je suis entourée de gens. Là, vous êtes chez moi. Deux secondes après, il y a du monde chez moi en permanence. Avant, j'avais des chats. J'ai des plantes. Enfin... J'ai une vie.
J'ai des plantes.
Non, mais
j'aime trop, c'est vraiment...
Mais ouais, regarde, t'as vu ça, c'est une forêt chez
ça,
moi.
Pour le coup, c'est vraiment un truc de somme, quoi, tu vois. Je vis pas seul, moi, j'ai des chats et des plantes. Wesh. Tu peux très bien être très seul avec des chats et des plantes. Hein, mais bon.
C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai une vie extrêmement remplie, épanouie, heureuse. Mmh. J'ai tout ce qu'il me faut comme tendresse. J'ai tout ce qu'il me faut comme sexe. J'ai tout ce qu'il me faut comme intimité. J'ai tout ce qu'il me faut comme partage. Enfin, comme confiance. Enfin. Mes potes, j'ai une espèce de crew, enfin c'est pas un crew, je n'en ai pas une bande, c'est des meufs, mais j'ai des meufs qui m'entourent, mais d'abord, je n'ai jamais avec aucun, alors je suis désolée, hein, mais jamais avec aucun homme hétéro de ma vie, je n'ai eu des conversations aussi poussées. Je ne parle pas seulement d'intelligence, je parle vraiment de profondeur, d'intensité, de questions que tu t'es posées, de jusqu'où t'es allée, mais avec aucun. Mais même si je mets trois mecs ensemble.
Je vais t'en présenter.
Ah, je veux bien, vas-y. Ah bah, vraiment, je serais ravie. Hein,
ah oui.
Parce que je n'en ai.
Faut aller bien les chercher, c'est tout. Ils sont juste bien cachés.
Mais vas-y, il y a un gisement, un truc.
Bah oui, j'ai un annuaire.
Ah, vas-y.
Mais c'est dur, ils sont durs à trouver.
Ils sont durs à trouver, d'accord.
Mais ouais.
C'est-à-dire que moi, la moindre de mes copines.
En fait, le simple fait, si je puis me permettre, le simple fait de penser ça, c'est déjà limitant. Et je comprends pourquoi tu le penses, hein, parce que ton expérience t'a prouvé que...
Oui, parce que pour le coup, c'est l'inverse. Enfin, c'est passé dans le sens.
Ouais. Tu vois, pour moi, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que le simple fait que tu penses ça, et j'ai plein d'amis, de femmes, etc., qui me disent exactement la même chose, en fait, je leur dis juste, mais en fait, le fait de penser ça, ça ne t'amène forcément pas les bons gens. J'ai entendu ton éveil spirituel.
Ah,
bien voilà. Et bien voilà. Tu ne vibres pas le bon truc, si je puis me permettre. Moi, j'en sais rien.
Mais non, mais peut-être.
Mon petit caillou dans ton jardin.
Je le prends avec plaisir. Mais si c'est le cas, ça fait que deux ans.
Ouais.
Parce que ça fait que deux ans que je le formule après 30 ans d'expérience. Mais en tout cas, ouais, ces meufs-là, ce qu'elles m'apportent en sécurité affective et tout. Enfin, je veux dire, ce qu'on partage, leur présence en cas de... Enfin, je vois pas du tout ce que m'apporterait un couple. Et encore une fois, ça n'exclut pas du tout les relations d'amour, les relations de désir, etc. C'est juste le couple.
J'aime trop.
Voilà.
Il nous reste 20 minutes.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est trop marrant parce qu'on a parlé beaucoup de maternité sans parler de ta maternité.
Oui.
Donc j'adore vraiment parce que ça change un peu de mes histoires habituelles. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on discute ensemble de... Donc t'as un petit mec qui a 8 ans.
Mm.
Si je me trompe pas, dans 2 ans, il rentre au collège.
Non, attends.
Si, 10 ans.
Non, dans 3. Là, il vient rentrer au CE2.
Oh, pipou.
Un petit chou.
Comment tu fais pour. Enfin, je veux dire, dans ton chemin, toi-même féministe, etc., à quel moment tu t'es dit, oh putain, j'ai un petit mec.
Mais tout de suite.
Tout de suite.
Bah, en fait, même pas avant sa naissance.
Avant sa naissance.
Bah, c'est-à-dire que quand j'annonçais que c'était un garçon, on me disait félicitations. On me disait bravo.
Ok. Et toi, t'étais là, non, pas du tout, ça va être.
Non, j'étais là.
On te l'aurait dit si c'était.
Non, justement. On me disait, ah, t'es enceinte, ah, super. Et alors, c'est quoi le sexe, c'est un garçon? Ah, bravo! Enfin, c'est-à-dire que les gens étaient contents et me félicitaient d'avoir réussi à fabriquer un petit mâle et non pas une pauvre femelle.
Mais t'es sûre de ça?
Ah, mais certaine. Ah, non,
okay,
mais c'était.
Okay.
Ah, oui.
Incroyable.
Bah, pas tout le monde, oui. Mais beaucoup de gens. Bah, mon père, tu vois. Mais pas que. Non, des hommes, des femmes.
Merci d'avoir fait un héritier.
Ouais. Ou des gens qui disaient, ah, le choix du roi. Alors, le choix du roi, il faut deux enfants déjà. Ouais. Et puis, enfin, tu vois, t'es là. Tu vois, t'as fait un garçon. Ah, le choix du. Enfin, genre, t'as fait un garçon. En fait, t'as réussi. Tu sais, on a toujours cette espèce de truc. Enfin, c'est comme si on avait les mémoires du monde et qu'on sait que dans certains pays, tu vois, on trucide les petites filles à la naissance parce que politique de l'enfant unique, il faut des garçons. Enfin, il y a ce truc de. Encore, on noie les filles. Tu vois. Donc, avant même sa naissance, j'étais là. Ok, d'accord. Donc, ça va être compliqué. Et surtout que j'ai accouché d'un petit mâle blanc bourgeois, pour l'instant en tout cas cis hétéro. Enfin, en tout cas, il a tout pour être un parfait connard, si je fais pas gaffe. Mmh. Et d'autant que là, je peux le dire maintenant qu'il a 8 ans, il est pour l'instant en tout cas plutôt joli. Il est joli, il est musclé, il est bon aux échecs, il est bon au baby-foot. Tu vois ce que je veux dire?
On est sur une bonne
graine de connard.
Un
quoi.
Gars populaire.
Ouais, oui, lycée, il a plein quoi. De potes. Enfin, tu vois, donc si je fais pas hyper gaffe, effectivement, il a aucune raison, il a pas de problème. Donc
et si son père fait pas hyper gaffe?
Oui, bien sûr. Mais
si tu peux me permettre.
Malheureusement, j'adore son père, on s'entend hyper bien, c'est un homme formidable, etc. Mais je pense pas, Nico, si tu m'entends, je suis vraiment désolé, hein, mais je pense pas que t'aies fait le chemin encore
Nico,
assez loin.
J'ai des podcasts pour toi. Écoute, histoire de l'amour, Nico.
Non, mais tu vois, il fait des efforts, ouais, et tout, il y a pas
mais
de
c'est dur
vois, mais bien sûr c'est dur, c'est dur. Pour ça que je n'en veux pas, enfin mais sincèrement je compte plus sur moi pour faire ce job. Non, mais en tout cas pour l'instant,
mais je te comprends
sincèrement,
si tu, je comprends,
tu vois, voilà,
c'est le drame, putain,
mais
c'est tout le drame en fait, c'est que effectivement si les mères elles-mêmes se disent en fait j'ai qu'à compter sur moi pour faire en sorte que mon petit mec soit un mec bien, il y a aussi un truc qui est défectueux, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est leur daronne qui va leur expliquer comment être un mec bien.
Alors,
tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est que le
petit garçon, lui, ce qu'il voudrait, je l'imagine, c'est plutôt avoir une figure paternelle qui va aussi lui expliquer. Alors, j'imagine que son père va lui expliquer plein d'autres valeurs, etc., qui sont positives, quoi, tu vois.
Mais c'est surtout que, pour le coup, son père, là, il va lui montrer. Enfin, il est. Il y a plein de choses qu'il fait,
oui,
qui donc vont être des exemples qui sont super.
Oui.
Genre, par exemple, en termes de vraiment de charge domestique, etc., vraiment, il est impeccable. Enfin, il est vraiment absolument impeccable. Vraiment. Oui, t'as raison. C'est pas, effectivement, il fait le taf. Dans ce cas, je suis impeccable aussi.
Il fait juste le taf.
Mais il le fait. Enfin, je veux dire, on est vraiment à égalité. Mmh. Et même sur les charges de, tu vois, les vaccins, les médecins, les trucs. Tu vois, sur ces choses-là vraiment importantes et tout. Donc ça, pour le coup, il n'a même pas à le dire à son fils. Il suffit qu'il l'ait et son fils voit ça. Donc ça, c'est quand même extrêmement cool. Voilà. Après, effectivement, j'exprime mes émotions. Bonjour. Je parle de moi. Hello.
C'est tellement dur.
Voilà, je te parle de sexualité, de ton corps, de. Hey, qu'est-ce qui se passe? Allô, allô, j'entends un écho. Enfin, ça,
allez,
c'est.
Salut.
Enfin, tu vois, ça. Mais pour le coup, ça lui manque à lui-même. Donc,
bien sûr.
Il va pas.
C'est
voilà.
Juste. C'est triste pour lui. Nico, c'est triste pour toi. Si tu m'écoutes. Il y a des podcasts pour toi.
Mais il procrastine déjà beaucoup. Il va finir par y arriver. Mais bon, notre fils aura peut-être 40 ans. Donc, faudra. Tu vois, je peux pas attendre. Voilà, je peux pas attendre.
On est sur de l'optimisme.
Non, j'espère que ça sera plus tôt. Mais enfin, en tout cas, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Et là, maintenant.
C'est intéressant aussi. Ça va peut-être être intéressant de voir comment son fiston le fait peut-être bouger. Tu vois,
dans les années
à venir, à l'adolescence, etc.
Ouais. Parce que pour le coup, dans les choses que j'ai réussi à transmettre là déjà, c'est l'expression des émotions. C'est vraiment...
Déjà, rien que ça, t'as gagné.
Bah, en tout cas, j'ai gagné ça. C'est mon fils, vraiment, il pleure pour un oui, pour un non. Il dit pourquoi il pleure, il dit qu'il est en colère. Il avait un coussin de colère pendant longtemps. Là, tu vois, je lui ai acheté un punching ball à sa demande. Parce qu'il m'a dit, le coussin, c'est plus assez, j'ai besoin d'un truc qui résiste. Tu vois, il m'explique.
Okay.
Ouais, ouais. Il est vraiment... Il exprime vraiment super bien. Et puis parfois, des trucs hyper pointus. Tu vois, d'émotions, de sensations, de trucs. Il me pose des questions. Et toi, quand t'étais petite, t'étais heureuse.
Mais c'est un cadeau incroyable que tu lui fais parce que...
Ça, je suis
t'imagines à quel point le nombre de mecs n'ont pas été éduqués à ça. Même à, non, même pas, je te parle même pas de commencer à les ressentir. Je te parle juste de ne pas les bloquer. Quoi.
De ne pas les bloquer. Non, mais tout à fait. Donc ça, je suis super contente. Après, pour l'instant, mon plus gros échec... Et ça m'empêche de dormir et c'est... Voilà.
Ça échec déjà, c'est dur.
Non, mais c'est dit pour l'instant. Mm. C'est-à-dire, j'espère... Enfin, c'est pas foutu. Mais là, pour l'instant, j'ai pas réussi. C'est sur le... Tu vois, il va baisser le froc de son copain ou de sa copine, mais quand même plus de sa copine. Il va toucher le cul de mes copines.
Il va toucher le cul de tes copines.
Ouais, il est obsédé par les culs, les nichons et tout. Ouais. Et pourtant, j'ai le sentiment que j'ai tout essayé, toute la palette, y compris de dire à mes copines qu'elles avaient le droit de le pourrir, enfin de réagir comme elles réagiraient si un homme faisait ça dans la rue, donc vraiment de le pourrir. Et j'ai une copine qui l'a fait, qui lui a... Enfin, elle s'est mise à sa taille, mais elle l'a pourri, quoi.
Il y a un coup de tête.
Il y a un coup de tête, je veux dire. Et moi, j'ai tout expliqué. La dernière fois, je lui ai même dit, c'est un crime, c'est puni par la loi.
Okay.
Et en fait, il a éclaté de rire. J'ai eu envie de le taper, je te jure, j'ai eu envie de le taper.
Il a 8 ans.
Ouais.
Tu vois, peut-être il y a encore aussi ce truc de... Enfin, j'en sais rien, après je suis pas psy.
Non mais vas-y, dis, parce que là je suis perdu.
Peut-être il y a aussi ce truc de c'est ma maman, et en fait c'est son corps, et son corps à un moment donné, on a été fusionnels ensemble, et donc, enfin tu vois, il y a peut-être un truc comme ça. Mais il vit un peu de thérapie, quoi, tu vois, pour que le fiston aille exprimer pourquoi il est aussi obsédé par les nichons et les culs.
Mais après, effectivement, je pense que...
Ce qui est cool en soi. C'est trop bien les nichons et les culs, il faut le dire.
En tant que mec hétéro,
t'es là, c'est super les nichons et les culs, prenons tout. Quoi, mais... Tu vois, ça fait bloup bloup et tout,
voilà,
c'est génial.
Mais on demande d'abord.
Et toujours.
On demande à la dame. Mais
c'est trop intéressant, tu devrais lui dire, alors tu demandes d'abord. Est-ce que j'ai le droit de toucher ton nichon?
Mais je te jure, mais bien sûr, je lui ai dit. Et parfois, genre juste après, il le fait. Il dit, Judith, est-ce que je peux toucher tes fesses? Parce qu'il adore les fesses de Judith. Judith, je peux toucher tes fesses? Et il fait, non! Et du coup, il me regarde, il fait, tu vois!
Ça marche pas!
Ça marche pas!
C'est nul ton truc,
oui,
là.
Du coup, c'est ça qu'il retient. C'est il retient marrant. Que s'il demande, on lui dit non.
Bah oui.
Donc,
déjà très bien qu'il apprenne à entendre un non. Quand il demande,
oui, c'est vrai.
C'est trop bien.
Sauf qu'il...
Après, ça le frustre. Ouais. En fait, peu importe, t'es un enfant. Apprends la frustration.
Ça va être ta vie. Mais. Okay. Attends, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça. Parce qu'effectivement, t'as raison. Il y a un truc de. C'est le corps de sa mère et tout. Et en plus, je pense que le deep doit être compliqué pour lui à dépasser, puisque je ne vis plus avec son père. Et qu'en plus, je n'ai pas un homme à la maison. C'est-à-dire que je lui présente pas. Il a rencontré, tu vois. Mais il n'y a pas quelqu'un dans mon lit.
Ouais.
Il voit pas quelqu'un.
Ah oui, donc la place est libre.
Ben voilà.
Il y a moyen.
Donc il y a moyen. Et je pense qu'il doit un peu galérer avec son
Oedipe. 6-8 ans, c'est un peu l'âge de l'Oedipe, là. Peut-être plutôt 6, mais 8. Bon.
Mais je me demande si je vais pas demander à un mec de venir dormir à la maison. Mais tu vois, enfin pour.
Juste pour qu'il comprenne.
Ouais. Enfin pour qu'il voit.
Il t'a jamais vu avec un mec dans le lit?
Non.
Ah. Ok, donc ouais, forcément, il y a un truc de maman. Ouais, y a peut-être moyen.
Mais c'est ça.
Moi,
mais parce qu'après, c'est moi, c'est justement dans cette idée que j'ai pas envie de couple. J'adore séparer. C'est-à-dire que j'ai mes moments avec mon fils et j'ai pas envie qu'il y ait un gars qui soit là. Et j'ai des moments avec mon gars. J'ai pas du tout envie que d'un coup on fasse famille. Enfin, tu vois, non. J'ai envie qu'on se fesse et qu'on se fouette.
Je comprends.
Enfin, tu vois, j'ai pas du tout envie de mélanger les deux doses.
Ah ouais, trop. Et donc, t'as jamais de moment avec un gars ou avec ton gars et avec ton gamin pour faire des trucs ensemble?
Non.
Ok.
Non, effectivement. Mais en revanche, j'ai parce que je
parle pas de faire famille. Tu vois, je parle juste de, je sais pas, aller au cinéma.
Ouais, mais pour moi, du coup, c'est famille, c'est papa, maman, enfant.
Ok. Ouais.
Et j'aime pas ça. Okay. Enfin, ça, je trouve ça pas sexy, ni sexy du côté de mon. Non, mais tu vois, ça me plaît pas. Ouais, ouais.
C'est
y a
marrant,
un truc...
comme s'il y avait un truc de. Non, sur la couverture de la photo, ça ne marche pas.
Mais c'est ça.
Couverture du mag, ne faites pas ça.
Mais j'ai des trucs un peu blocage comme ça. Par exemple, j'ai jamais de poussette.
Ok.
Parce que pareil, je trouve ça pas sexy.
Il y a un truc de. Est-ce que c'est parce que c'est un truc de maman? Ça incarne la maman.
Ça, pour moi, ton enfant, tu le portes et si tu peux plus le porter, ben il marche. Mais.
Ok.
Tu vois, et je l'ai porté super longtemps.
Je peux comprendre.
Et puis à un moment, je pouvais plus le porter parce qu'il était trop lourd, et bah, le mec, il a marché. Hein.
Ouais.
Enfin.
J'imagine qu'il savait marcher.
Oui, il savait, mais je veux dire, comme tous les enfants, non,
ça dégage, ça défusionne. Ouais, allez, salut.
Puis on n'a jamais eu la bougabou, le machin, jamais.
La quoi?
Tu sais comment ça s'appelle, la poussette que tout le monde a?
Ah, moi, je suis pas.
T'es pas poussette non plus.
Bah, mes filles, elles ont déjà. Elles sont 17 et 15, tu vois, donc elles sont vieilles.
Ah, ça existe peut-être.
Moi, j'avais pas la bougabou, je sais pas.
Je sais même pas que ça s'appelle comme ça.
C'est quoi? C'est les yo-yo, là, c'est ça que je
vois? Ah, oui,
partout,
il y a ça aussi, ouais, voilà. Bon, et ben non, poussette non,
c'est
pas
la
sexy.
Mode dans Paris.
Et aller au cinéma avec mon mec et mon fils, non. Pas, okay. Pas. Mais en revanche.
Et ton fils n'a jamais rencontré tes mecs?
Si, mais tu vois.
Ok.
Il y en a un, il sait que c'est mon amoureux, je le présente. Enfin, tu vois, on a passé. Ouais, oui, oui. Mais voilà, donc il sait qu'ils existent, il les a rencontrés.
S'il y a moyen de les buter dans leur sommeil, ce sera peut-être bien, comme ça maman elle sera dispo.
Mais non, parce qu'en plus, de toute façon, ma vie, enfin, chez moi, il y a du monde vraiment quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Je fais au moins 3 dîners par semaine. Donc, c'est au moins 3 fois par semaine, il y a soit une personne qui vient dîner en tête-à-tête avec moi, mais du coup, mon fils est là, et tu vois, et on partage le truc, et la personne va lui lire une histoire, enfin...
Ah, trop bien.
Ouais, et en fait, il y a un truc de comme si on était un couple, sauf que la personne peut être un homme ou une femme, elle peut changer, et en fait, le rapport que les adultes ont avec mon enfant sont décorrélés des rapports que les adultes ont avec moi. Ça, c'est pas parce que tu couches avec moi que t'as le droit de lire une histoire à mon enfant.
Je comprends. Oui, oui, ça après, voilà. Tu vois, le...
Il y a des gens qui disent des histoires à mes enfants, il y a des gens qui se couchent, et c'est parfois les mêmes, parfois pas les mêmes, mais
j'entends.
Je vois pas le lien.
Voilà. Et je respecte totalement. Et je vois l'idée en plus. Je trouve ça trop intéressant.
Et parfois, on va au cinéma avec d'autres adultes. Et parfois, on va au parc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein d'activités qu'on fait avec d'autres adultes, hommes comme femmes.
Mais il y a un peu ce truc où tu veux... Oui.
Ouais. J'aime bien séparer les doses. Quoi.
C'est très intéressant. Comment tu te projettes je sais pas. Ouais, tu vois, comme tu dis, mon gamin, il a tout le potentiel pour devenir un petit con. C'est quoi qu'est-ce que tu fais au quotidien?
En dehors du fait de
lui dire de tu te demandes avant de toucher le cul de mes potes.
J'essaye vraiment dans les conversations qu'on a de toujours. D'abord, j'essaye d'avoir les accords Toltec. J'essaye d'avoir une parole impeccable, c'est-à-dire de tu vois toujours de quoi qu'on parle, parler au féminin masculin. Enfin et jamais enfin ne jamais respecter les normes de l'hétéronormativité. Et de l'androcentrisme. C'est-à-dire que toi, toujours, c'est un copain, une copine, un amoureux, une amoureuse. Quand tu seras grand, si tu veux des enfants, si tu es avec quelqu'un, si c'est un homme, si c'est une femme. Enfin, j'essaie vraiment de ne lui mettre aucun modèle restreignant, tu vois. Voilà, de toujours être à l'écoute de ses émotions et de toujours les autoriser, surtout les émotions, tu vois, de fragilité, de vulnérabilité, etc. J'essaie de lui montrer aussi ma vie, voilà, tous les aspects de ma vie et avec ce que ça a parfois de difficile et pourquoi ça l'est et ce que ça a de joyeux et de formidable. Et ça, j'avoue que je rêve, enfin, il y a quelques exemples comme ça, là, qui ne me reviennent pas d'un coup, mais de grandes penseuses ou sociologues ou philosophes, etc., ou même artistes qui ont collaboré avec leur enfant, ou dont les enfants ont repris l'œuvre ou la pensée. Et bien sûr, je rêve de ça. Je rêverais de collaborer.
Ah, c'est un vrai truc, c'est un vrai projet.
C'est impossible que ce soit un projet parce que ça se trouve, il va être dentiste.
Oui, c'est ça.
Et je serais très heureuse qu'il soit dentiste, tu vois. Donc, c'est pas du tout un projet. En revanche, dans la constellation des choses auxquelles je peux penser, qui peuvent me faire triper, oui, ça, c'est une étoile qui brille assez fort. Ouais.
Maman! Bon, on espère qu'il ne touchera plus le cul.
ça sera plus possible. Mais ce que je ne vous ai pas dit, je l'allaite encore. Non, je déconne. Pardon. Et par ailleurs, je ne juge pas les femmes qui allaitent aussi tard qu'elles veulent. Ça me fait bizarre à l'œil parce qu'on n'est pas habitué, mais je juge évidemment pas du tout.
C'est sûr que c'est, oui. c'est bizarre.
Je ne vais pas mentir, ça fait bizarre, mais c'est une question d'habitude, c'est tout.
Tout à fait. Il faut qu'on parte. Hein, j'avais plein d'autres questions.
Putain, on n'a pas parlé.
J'avais 1000 trucs à te demander.
Mais tu veux qu'on fasse un épisode 2?
On pourra faire un épisode 2 avec grand plaisir.
Parce qu'effectivement, je n'ai pas du tout parlé d'une fois que l'enfant est là.
L'enfant est là, j'aurais voulu te parler de ton rapport à la maternité avec ta. avec ton éducation toi-même par rapport à ta mère et tout, ouais. Il y avait mille questions, mais c'était passionnant.
C'est vrai que j'ai encore plein de trucs à dire.
Oui, on fera un épisode 2 avec grand plaisir. Franchement, ouais. Avec grand plaisir. On se rencontre aussi parce que t'es en pleine période de promo là.
Oui,
donc,
tout
vas-y,
à fait.
C'est le moment. C'est le moment de faire la promo. Wesh.
Et bien, je joue l'harmonie des genres, qui est un seul en scène musical. Je suis accompagnée de trois musiciennes. On fait du rock, du rap et tout. Les meufs sont incroyables. Et ça se joue des Mathurins les dimanches et les lundis, et ça parle vraiment de tout ça. Ça questionne le couple, l'amour, le sexe, la famille, l'amitié, enfin tous les rapports hommes-femmes, quoi. C'est ok, c'est bon, MeToo est passé, maintenant les femmes se libèrent, on essaye, on veut, ça, ok, canon, mais comment on fait quand on se retrouve avec des hommes et que dans des vieux schémas, parce que homme comme femme, on est complètement matrixé, quoi.
Exactement. Bon. Patrixé, c'est-à-dire ?
Bah oui, parce qu'on peut pas dire matrixé, parce que c'est une patrixé.
Je l'avais. C'est juste, est-ce que j'ai bien entendu ?
Patrixé.
Bien joué.
Je m'appelle Patrice et je te patrixé.
Je mettrai tous les liens pour aller te suivre sur tes réseaux sociaux, etc.
Ouais,
et les liens, effectivement, pour venir te voir au Théâtre des Mathurins. C'est à partir du 24 septembre, c'est ça ?
À partir du 24 septembre, voilà. Tout à fait.
Merci Noémie, c'était passionnant.
Merci pour tes questions, c'est génial.
Ah bah, trop bien, ça me fait plaisir. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.